Voilà, c'est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Śrīla Prabhupāda ki jai.
Ja.
Alors voilà, on est à la page 100, à la page 12, le point 1.4. Alors aujourd'hui on parle du second aspect de la vérité absolue, c'est-à-dire le Paramatma, l'âme suprême qui est située dans le cœur de tous les êtres. Alors voilà. Alors point 1.4. Lorsqu'il progresse, est-ce que tu vois le texte? OK, parfait.
Oui, très
Lorsqu'il
clair.
parfait, excellent. Lorsqu'il
Est-ce que vous
progresse,
m'entendez?
oui, je t'entends. Oui.
Et on est un peu à... Je
Déphasé un
m'entends
petit
un
peu.
peu après. Oui.
Ouais, un peu déphasé. Bon, on va faire avec.
C'est ça, pas le choix.
C'est ça. Alors, lorsqu'il progresse, ce dernier prend conscience du second aspect de la vérité absolue, le Paramatma, trois petits points. Le chemin de la réalisation spirituelle est certes long, très long. Y parvenir semble aussi éternel, entre guillemets, que le conditionnement même de l'âme égarée dans le monde matériel. L'âme conditionnée est appelée Nityabhada, éternellement déchue dans le monde matériel. Śrīla Prabhupāda explique dans une classe qu'il donna à Londres le 14 juillet 1973. Le mot Nitya Siddha est significatif. Nitya Siddha et Nitya Bada. Il y a deux sortes d'êtres vivants. Nitya Bada signifie toujours conditionné. On entend par là ceux qui se trouvent dans ce monde matériel, qui ne savent pas quand ils sont entrés en contact avec ce monde matériel, et qui ne savent pas non plus quand ils seront libérés. On les appelle Nityabhada, les âmes éternellement conditionnées. De même, il existe les Nityasiddha. Nityasiddha signifie qu'ils n'entrent jamais en contact avec ce monde matériel, et même s'ils viennent d'ici pour une mission, ils n'oublient pas leur position. C'est ce qu'on appelle Nitya Siddha. Le sort de l'âme conditionnée commence à changer en venant en contact avec la conscience de Krishna par le biais de la miséricorde d'un pur bhakta. Même à ça, toujours est-il qu'il faut qu'elle s'éveille à la vie spirituelle. Une étincelle est toujours présente dans le cœur de toute âme conditionnée quant à sa possibilité d'embrasser la vie spirituelle. Mais cette étincelle doit être alimentée pour devenir un feu ardent. À partir du moment où, grâce à ce feu, la priorité principale devient de s'enquérir sans cesse de la vérité absolue, Krishna, la voie de la libération s'ouvre grand devant elle. Ne te gêne pas s'il y a des questions ou des commentaires, disons.
J'ai juste une question dans tout ça, là. C'est quand éternellement déchu dans le monde matériel, c'est long, ça. C'est éternellement, là.
Oui, mais faut pas mettre plus plus de poids au mot éternel qu'il ne le faut. Alors, oui, éternel, parce que ça semble qu'il n'y a pas de fin dans ce sens-là.
Mm-hmm. OK.
Mais dès qu'il y a un contact avec un pur dévot, le destin change pour une âme conditionnée. Alors, c'est comme, par exemple, Prabhupada dit, par exemple, quand on distribue ses livres, les gens, juste le fait de toucher le livre, sont pratiquement assurés d'une vie humaine dans la prochaine vie. Alors, c'est puissant et c'est spécial. Ça veut dire qu'il y a un début, en quelque part, de leur vie spirituelle. Alors, il y a une histoire d'un brahmana qui est allé voir un jour un chef de famille. En fait, le chef de famille n'était pas vraiment un grihastha, ça devait être plutôt un grihamedi, un chef de famille, disons, plus matérialiste. Alors, il était envieux des dévots, lui. On parle pas des dévots de ISKCON, on parle des dévots de Krishna loin, loin, loin dans le passé, pour l'histoire. Alors, il y a un brahmin qui est allé le voir et il lui a demandé la charité, parce que c'est ça que les brahmins font. Ils ont le droit de demander la charité auprès des gens mariés. Alors, il est allé à la porte de ce bonhomme-là. Et le bonhomme était envieux des dévots. C'est comme genre, il peut pas sentir les dévots. Genre, mentalité que, ah, les dévots, c'est juste des mendiants, ils font rien dans la vie, ils gagnent pas leur vie, ils font juste mendier, etc. Alors, le brahmin est là, il demande la charité. Le chef de famille, il dit, OK, attends, reste là, je vais aller te chercher quelque chose. Alors, il va chercher son quelque chose, et là, ce qu'il donne, finalement, il arrive et donne au brahmin une poignée de cendres. Alors, le brahmin le remercie, pas offusqué, pas fâché. Et l'autre est très surpris. Comment ça se fait que ce brahmin-là, il est pas offusqué, il est pas insulté? Alors, il demande. Il dit, t'es pas fâché que je te donne ça? Alors, il lui a répondu, il dit, maintenant, il dit, je suis content parce que maintenant, je sais, ta vie spirituelle est commencée.
Wow.
Bonsoir, la visite. Il est parti. Alors, ça, c'est un effet d'avoir fait un geste spirituel mal intentionné, bon intentionné ou mal intentionné, le geste va porter fruit pareil. Alors, c'est la grâce de Krishna qui fait que il y a une bonne conséquence aux activités spirituelles. Alors c'est dit, quand quelqu'un devient un dévot, selon la Bhagavad Gita, le chapitre 7, verset 28, ce sont les personnes qui ont agi pieusement dans cette vie et dans le passé, qui sont libérés des dualités de l'illusion. Ces personnes-là s'engagent avec détermination dans mon service de dévotion. Alors, ça, c'est chapitre 7, verset 28 de la Bhagavad Gita. Attends, allez chercher, juste pour être sûr que j'en ai. 7, 28.28, c'est ça. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée, comme dans la présente, et en ont banni, c'est ça qui me manquait, en ont banni le péché, sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. Alors ça, c'est les conditions pour pratiquer le service de dévotion. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi il y a l'observance des quatre principes régulateurs dans le service de dévotion. C'est pour mener une vie sans péché. Sinon, on s'en sort pas, là. On est dans une vie où le péché fait partie de la vie. Alors, les dévots se doivent de mener une vie exempte de péché. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
J'ai comme genre de questions, là. Moi, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé comme immigrant. Ils nous ont mis dans les ghettos italiens, là.
Oui.
Puis j'ai grandi avec les plus grands bandits de Montréal.
Oui.
Ma majorité de ma vie. J'ai vu toutes sortes de choses. J'étais pas un participant vraiment, là, mais j'ai quand même été entouré de ce monde-là. Alors, c'est une grosse grâce que j'ai. Parce que où ce que je suis rendu, j'en reviens pas moi-même. Mais j'allais à l'église, mon père, j'étais enfant de cœur, tout ça, tu sais, ces affaires-là. Que même les plus grands bandits vont à l'église, là, mais c'est pas une bonne chose, là. Mais c'est comme j'en reviens pas où ce que Krishna veut dire m'a aidé dans ce chemin-là, veut dire pour arriver à juste comprendre un petit peu de la beauté, tu sais, dans laquelle que on peut nager avec cette conscience-là, tu sais, dans c'est le bien-être total. Alors c'est vraiment c'est parce que beaucoup de dévots veulent dire c'est du bon monde depuis qu'ils sont jeunes, la Brahmachari, tout ça là. Pendant longtemps, 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 j'ai baigné dans ce monde-là, là, veut dire vraiment de tout qu'on peut imaginer corruption là, tu sais, c'est vraiment par la grâce de Dieu, puis c'est Dieu qui m'a, c'est Krishna veut dire qui a vraiment, vraiment m'a donné cette opportunité de connaître un peu, veut dire celui, puis de connaître premièrement, c'est par un livre qui m'a rentré là, puis après veut dire d'être entouré des dévots là, c'était comme j'ai eu une grande grâce, puis l'accident qui m'a donné encore, c'est un blessing, un comment dire en français un blessing, une bénédiction. Parce que c'est ça qui m'a enlevé complètement de ce milieu-là. Ça m'a coupé des affaires-là. D'un tort physique, j'ai eu une grande grâce de ça. Alors, Krishna veut dire, on le voit à chaque instant dans tout ce qu'il fait. Veut dire, si on prend conscience, on voit comment il dirige le tout pour amener ses enfants, parce qu'on est quand même les enfants de Krishna, là, vers lui. C'est comme un père, il te punit si tu fais quelque chose de mal, mais il te punit parce qu'il t'aime. Moi, je le prends comme ça, là, comme, mais c'est l'affaire éternellement, veut dire, je suis pas sorti du bois, là, je suis pas mal encore dans le bois, là. Mais, c'est à moi et ma force de foi que j'ai envers ça qui va me sortir de là, il y a personne d'autre, dire, à part les écritures puis la volonté de Krishna, là.
Ouais, c'est Krishna nous a à l'œil. Et quand Krishna, disons, a à l'œil quelqu'un, comme tu dis, là, même les choses qui semblent pas bonnes sont bonnes. Ça fait diminuer la foi dans l'énergie matérielle et augmenter la foi dans l'énergie spirituelle. Et ça, un dévot doit en être conscient, et ce n'est pas si difficile que ça d'en être conscient. Et en plus, il y a l'association des dévots présents ou passés surtout, qui ont passé à travers des épreuves de la vie et qui s'en sont sortis grandis. Alors on a l'exemple des Pandava, l'exemple de la reine Kunti. C'est dans le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Alors, il y a de l'espoir. Et comme Krishna dit, pour ceux qui me servent avec Ça c'est ici. Ceux qui servent Krishna avec détermination, Krishna leur donne l'intelligence par laquelle ils peuvent venir à lui. Alors l'intelligence, ça veut dire t'es dans le beau milieu de ceci ou de cela, mais Krishna te donne l'intelligence pour voir assez clair où est ton intérêt là-dedans. Alors ton intérêt, ça peut être aussi négatif dans le sens que de ne pas voir d'intérêt. Parce que la vie spirituelle, ça veut dire ne pas voir d'intérêt dans la vie spirituelle, mais voir l'intérêt plutôt dans le spirituel des choses. Alors c'est soit un, soit l'autre. Il y a un intérêt à quelque part. Mais l'intérêt, disons, pour la vie spirituelle fait que on délaisse un intérêt pour la vie matérielle pour plutôt s'intéresser à la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est à la base, c'est d'écouter, chanter, se souvenir de Krishna. C'est ça la base. Alors, si tu enlèves ça d'un dévot, il n'y en a plus de dévot pratiquement.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien après ça. C'est dans l'artificiel. La saveur d'une pomme qui est faite en plastique, là, n'a pas de goût. Je veux dire, c'est pas satisfaisant. Une vraie pomme, tu sens, il y a tout dedans, tu sais.
Ouais.
On est attiré par les couleurs, par les formes, tout ça, mais ça vaut rien. C'est du plastique.
Exactement. C'est comme, par exemple, si tu mets sur ta table un beau plat avec des pommes en plastique, des bananes en plastique, même des fleurs en plastique, bien jolies pour prendre une photo, peut-être, mais même à ça, en tant qu'être humain, tu le sais, là, c'est pas la vie, ça. Tu sais, il n'y a pas de vie là-dedans, là. C'est artificiel.
Non. Ça.
On t'entend mal, là. OK.
Je dis, ça se sent quand c'est pas vrai. Je veux dire, on regarde une fleur qui est vraie. Ça dégage une énergie spéciale, la beauté sur chaque élément qu'on regarde. Ça fait que de la vérité, tu sais, dans tout ça. Mais quelque chose en plastique, ça donne rien. Ça n'a pas de fréquence, ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de joie. Ça donne absolument rien.
Exactement. Exactement. OK, alors on va continuer. Alors, on est à la page 13, la ligne 1.
Moi, j'ai pas de...
Ah,
Ça n'a pas
OK.
changé la page.
OK, je vais la changer, là. OK, là, on est rendu à l'autre page. C'est disponible, OK?
Oups, excusez, je l'avais... Screen share. Ça peut rentrer, non? Les signaux sont pas forts aujourd'hui ici. Ça tourne encore. Ah, OK. C'est rentré.
OK, good. Est-ce que tu veux lire un petit peu?
Ben, je vais essayer. Je suis pas fort en lecture, non?
Lis le premier paragraphe, il n'est pas gros.
OK. Tout ne devient plus qu'une période de bien placée
priorité,
de comprendre, priorité bien placée de comprendre coûte que coûte sa véritable position d'issue et de raviver sa relation éternelle avec tout complet l'âme suprême. Tel est ce qu'on se résume une étude aussi approfondie que possible de la Shri Isopanishad.
Ouais.
Plus vous demeurez un rebelle sous l'emprise de l'énergie d'illusion illusoire, plus vous restez condamné à l'ignorance. Vous pensez bien faire, vous cherchez à bien faire dans le fond, mais à vrai dire, vous ne connaissez rien de ce qui est bon, de même que ce qu'il faut faire de bon dans la vie. Et pourquoi vous n'évoluez que sur le plan neutre de la vie matérielle et vous n'avez pas, par conséquence, l'éducation requise pour voir en termes de transcendance, votre soi-disant éducation matérielle ne vous permet pas d'aller, d'avoir la moindre conscience de la notion d'une âme suprême. Omniprésent, présente en personne, en tout ce qui existe, vous êtes victime d'un manque flagrant de conscience de Dieu. Comment et pourquoi vous blâmez? C'est la nature de l'existence matérielle qui est faite aussi. Telle est la maladie liée à l'aveuglement de la matière. Tous les êtres naissant dans l'ignorance, vous tournez en rond dans le désert sans fin ni pitié de l'existence matérielle. Vous êtes en manque de bonne fortune, mais cela peut changer. Dieu merci, par la bienveillance de Dieu à l'égard d'une âme déchue dont les actes pieux ont joué en sa faveur.
Oui.
C'est ça. C'est dur pour moi de... J'ai pas fait d'école vraiment. Ça
ok,
aussi,
c'est correct, hein. C'est correct. Pas de problème, c'est apprécié. Alors, je vais continuer parce que c'est intéressant ce qui s'en vient, là.
Okay.
Alors, il faut être une âme bénie de Dieu pour venir en contact avec une âme réalisée qui, à son tour, s'occupera de vous offrir refuge et, par conséquent, protection face aux influences de la nature matérielle, les gunas. Alors, quand on est dans la matière jusqu'au cou, là, on n'a aucune idée qu'il y a des gunas qui existent, qui nous conditionnent. Ça prend la Bhagavad Gita pour nous ouvrir les yeux. Et ça prend sur le Prabhupada pour nous donner la Bhagavad Gita telle qu'elle est, pour nous aider à comprendre justement la Bhagavad Gita comme Prabhupada l'a écrit, la Bhagavad Gita telle qu'elle est. À vrai dire, un pur dévot est un agent du Seigneur offrant libéralement le refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur, le seul refuge qui soit une alternative viable à l'existence matérielle. Cet entendement peut échapper à de nombreuses personnes pour une raison ou une autre, et ce, même si elles en entendent parler. Chacun dispose d'une liberté de choix dans la vie. Les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous. C'est libre à quelqu'un de continuer gaiement dans son ignorance qui, elle, finira toujours par l'empêcher de voir les choses à leur juste valeur. Mais pour les autres, les âmes fortunées, une opportunité inouïe s'ouvre toute grande devant elles. Par la grâce de l'âme suprême omniprésente dans leur cœur, ces âmes sont guidées d'ores et déjà sur le chemin de la réalisation spirituelle. La main et la voix du Seigneur à l'interne y sont pour quelque chose. Extérieurement parlant, de concert avec un pur dévot, une âme fortunée en sera bientôt à ses premiers pas sur la voie de la réalisation spirituelle. Le pur dévot l'instruira de la science de Dieu, la seule nécessité véritable dont on ne devrait absolument pas se passer. L'âme fortunée est dûment guidée de l'intérieur comme de l'extérieur. Son futur s'annonce des plus prometteurs. Alors, c'est dit ici, l'âme fortunée est dûment guidée de l'intérieur. Ça, c'est Krishna présent dans le cœur qui agit comme le Chaitya Guru. C'est ça. C'est-à-dire le Guru à l'intérieur. Et elle est guidée de l'extérieur par le représentant de Krishna, qui est le maître spirituel, qui agit comme représentant de Krishna. Alors, son futur s'annonce des plus prometteurs. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Juste une question. Qu'est-ce qui ouvre la porte à la personne pour entrer dans cette direction-là? Est-ce que c'est son désir, sa foi, ou prononcer le nom de Krishna? Il y a quelque chose qui ouvre, dire le désir de continuer sur ce chemin, parce que c'est pas un chemin qu'au début il est t'as envie qui est savoureux. Tu veux dire, c'est quand même un chemin quand on débute, en début là, il y a beaucoup de questions, puis c'est pas facile parce que on a tout le passé qu'on traîne avec nous, avec nos connaissances de la matière qui traîne, nos identités, notre faux ego. Alors, qu'est-ce qui nous ouvre la porte dans ça? C'est Krishna qui a vu dans notre cœur, veut dire quelque chose de...
La réponse est très simple. Très, très simple. C'est juste une chose. Et Prabhupada dit, la seule qualification pour la conscience de Krishna, c'est la sincérité. C'est juste ça. Alors, la sincérité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? La sincérité... Attends, je vais continuer, là. La sincérité, ça veut dire quelqu'un cherche la vraie chose. Ça, c'est la sincérité. Tu sais, si quelqu'un cherche, comme Prabhupada dit, « the cheaters and the cheated », il y a les tricheurs et ceux qui sont trompés par les tricheurs. Parce que, justement, ils veulent, comme Prabhupada dit, dans la vie spirituelle, ceux qui veulent une vie spirituelle à bon marché, qui sont pas prêts à payer le prix pour de la vie spirituelle, ben ceux-là, ils vont tomber sur du monde qui parle comme eux autres, qui veulent bien leur dire des choses qui tombent dans leur mentalité. Alors, comme par exemple, des faux maîtres spirituels, des yogis qui disent à des disciples, par exemple, très, très élémentaire, ça. Ah, dans le yoga, vous pouvez manger n'importe quoi. C'est pas important. Ben, je m'excuse, là. C'est pas la philosophie de la Bhagavad Gita, ça. La philosophie de la Bhagavad Gita, c'est offrir sa nourriture à Krishna et ensuite honorer cette nourriture qui devient du prasad. Ensuite, dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 9, si je ne m'abuse, 3, 8, 9, c'est ça. Chapitre 3, verset 9, Bhagavad Gita. C'est dit ici, l'action doit être accomplie en sacrifice à Vishnu, sinon elle enchaîne son auteur au monde matériel. Aussi, ô fils de Kunti, remplis ton devoir afin de lui plaire et tu seras à jamais libéré des chaînes de la matière. Ensuite, un peu plus loin, 3, chapitre 3, verset 13. Krishna dit, les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute parce qu'ils ne mangent que des aliments d'abord offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché. Ça, c'est Bhagavad Gita 3, 13. Alors, c'est pas confirmé où que ce soit que tu peux manger n'importe quoi puis c'est du pareil au même. C'est pas exact, ça. Alors, si on veut une vie qui permet de se purifier, ben, faut manger la nourriture qui a été offerte déjà à Vishnu ou à Krishna, le prasad. Et rien d'autre. Et comme c'est expliqué dans Upadeshamrita, de manger le prasad et rien d'autre, c'est la façon de maîtriser la langue. Alors, tu donnes pas à la langue le champ libre, là. Va manger n'importe quoi. Non, ça marche pas comme ça. En fait, pour un dévot, c'est pas attirant, ce genre de style de vie-là. T'sais? Une fois que tu commences, tu comprends c'est quoi le prachat d'âme, comment la nourriture ordinaire, qu'on appelle en fait boga, ce qui n'est pas offert à Krishna, mais le boga devient prachadam parce qu'il était offert à Krishna. Et l'offrande, comme Krishna dit, celui qui m'offre avec amour et dévotion un fruit, un peu d'eau, cette offrande, il va l'accepter, Krishna, mais pourvu que c'est offert avec amour et dévotion. C'est la condition.
Mais quelqu'un qui est japonais, il a fait une preuve, c'est pas du prachad. Il a pris de l'eau, deux verres d'eau. Sur un verre d'eau, il parlait que d'amour, oh, que vous êtes joli, je vous aime, tout ça. Et l'autre, ah, oh, t'es bon à rien, tout ça. Et ensuite, il les a mis dans le frigidaire. Puis une est devenue une cristal, celle avec amour est devenue comme un flocon de neige de cristallisé. Et l'autre est devenu tout croche. Alors la vibration, juste la vibration de l'être humain transforme les choses. Imaginez les paroles qu'on offre à Krishna, disons là, ça doit transformer. C'est la même chose. Alors, c'est éprouvé par un Japonais que les aliments ou les choses se transforment par des fréquences, je veux dire, qu'on voit pas là. C'est
oui, disons, l'usage qui est fait. Ça sous-entend la conscience avec laquelle les gestes sont posés. Tu sais, on peut dire la même chose, par exemple, si tu as adopté un animal domestique, puis tu le traites comme un moins que rien, l'animal va le sentir, ça, et son comportement va être affecté. Mais si tu as un comportement, disons, affectueux envers l'animal domestique, ben il va une des premières choses qu'il va essayer de te rendre l'appareil à sa façon à lui. Lui aussi va vouloir être affectueux, puis il va être habitué à recevoir une forme d'affection, puis ça ainsi de suite. Alors, il y a une relation entre le maître et son chien ou son animal domestique. Alors, il y a une affection. Et en fait, cette affection-là, c'est un reflet de l'affection qu'on a avec Dieu, avec Krishna. Donc, comment on peut avoir, disons, généré de notre part de l'affection si ça vient pas de Krishna originalement? Tout vient de Krishna originellement. C'est parce que Krishna est affectueux qu'on a, vu qu'on est une partie de Krishna, qu'on a une certaine capacité à se montrer affectueux. S'il n'y en avait pas en Krishna, on ne l'aurait pas parce qu'on est une parcelle de Krishna. On est un petit échantillon de Krishna, mais en miniature. C'est notre position. On a les mêmes qualités que Krishna jusqu'à un certain point. Pas toutes les qualités parce qu'il y en a qui sont exclusives à Krishna. Mais on en a pas mal quand même. Oui.
J'avais une autre question. Dans les, tout à l'heure, on parlait sur la vérité d'être vrai, d'être. Je me rappelle plus le mot là que vous avez utilisé là. Sincère.
C'est sincère. Ça. Sincère.
Alors, on a des faux gourous et les autres sont intelligents et tout ça. Et comment ils ont fait pour arriver là? Je veux dire, où ils sont perdus sur le chemin de la voie de conscience de Krishna, de la libération, ou ils sont là pour une raison, pour le monde qui sont pas sincères, pour les attirer?
Pour qu'ils en soient là, il y a quelque part chez ces personnes-là, je dirais un manque de conscience honnête, un manque d'honnêteté. Ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Alors, tu sais, c'est comme Krishna donne l'intelligence à tout le monde. Alors, même les désirs les plus infâmes, Krishna m'a donné l'intelligence pour y arriver. Et ce sont des personnes à ce moment-là qui sont pas des dévots de Krishna. Ça n'a rien à voir avec la dévotion, ça. Comme par exemple, donnons un exemple pratique, là. Mettons un voleur. Un voleur de banque, par exemple. Lui, il regarde les banques. Je ne suis pas un voleur, là. Je peux pas parler trop, trop fort pour ces gens-là, là. Mais disons, j'imagine la logique, là. La logique, s'il va dans une ville, puis là, il regarde c'est quoi la plus grosse banque, quelle est la, mettons, quelle serait la banque, ce serait facile et possible de cambrioler. Et puis, ensuite, il regarde ses moyens. Il regarde combien il y a de complices, combien il y a de voitures, est-ce qu'il y a une police qui peut corrompre pour fermer les yeux sur le geste. Tu sais, il y a un paquet de choses qui va planifier. Mais Krishna donne l'intelligence pour ça. Tu peux pas dire, ah, Krishna, il a figuré ça tout seul, là. Non, non, non. Pour n'importe quoi, Krishna est dans le cœur, donne l'intelligence. Alors, mettons qu'il va réussir son coup. Mais comme on dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf, bon, ça va toujours en montant, là. T'en as jamais assez volé, il faut que t'en voles plus. Mais à un moment donné, tu te fais mettre la main au collet. Parce que t'as pas prévu que, ah, il y avait une faille. La journée que Krishna veut que tu manques ton coup, là, ça va arriver aussi. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois attrapé, là. Alors, faut qu'il y ait une police qui soit plus intelligente, un détective qui soit, lui aussi est intelligent. Pour figurer, ah, lui, il pense comme ça, voici ce qu'il va faire, et moi, je vais faire pour l'attraper. Ça s'en va comme ça, là, c'est chien et chat, là, c'est le chat et la souris, là, qui est plus intelligent des deux. Et puis, bon, il y a des prisons qui existent, justement, pour mettre les criminels dedans, puis les mauvais éléments de la société, ils se ramassent là, puis on se croise les doigts qu'un jour vont être rectifiés, mais ça aussi, c'est un rêve, là. Parce qu'en général, il y en a un nombre qui... C'est irrécupérable, là. T'sais, ils vont jamais changer. Ils sont trop... Comment on peut dire?
Ils sont pas conscients de Dieu, alors ils peuvent pas changer. Ils voient que la matière, tu sais. Ils sont pas réveillés dans l'empathie... voir que tout ça là veut dire c'est une vérité temporaire. Ils ont pas cette grâce de voir la vérité. Alors
Ouais.
pour eux, la vérité, c'est le pouvoir, l'argent,
Ouais, exactement. C'est très démoniaque, là. C'est,
ben,
ça
y en a...
fait par, ça fait partie des, dans le Bhagavad Gita, là, chapitre 16. Il y a des versets justement qui décrivent c'est quoi leur fond de pensée, puis justement la considération des richesses, du pouvoir. Et puis les autres fonctionnent en termes de dualité, à savoir ça c'est un ami, ça c'est un ennemi, et cet ennemi-là, je vais m'en débarrasser, je vais l'éliminer, puis tout va aller bien selon mes plans. C'est une mentalité démoniaque, ça.
C'est qu'est-ce qu'on vit dans ce présent temps. Dire, on est gouverné par du monde démoniaque parce que je vois rien de bon dans qu'est-ce qu'ils font. Dire, ceux qui gèrent la terre, là, tout ça, là, les riches, les gouvernements et tout ça, là. Il n'y a pas d'empathie, dire, le monde. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces révoltes-là que le monde font. Puis s'en foutent, veut dire, même si le monde crie, pleure, tout ça, ils les entendent même pas. Ils en souffrent, ben, ça leur dérange pas.
Ouais, c'est comme M. Trump. Il vient juste de dire ça il y a pas longtemps, qu'il dit qu'il se préoccupe pas de l'Américain moyen. Il s'en préoccupe pas. Ses propres paroles. Qui s'occupe pas de l'Américain moyen. Alors,
Il s'occupe de qui? Des pauvres?
il s'occupe de personne. C'est juste qu'est-ce que lui, ça lui plaît de faire, puis c'est tout. C'est un bonhomme comme ça, ça. Me, myself, and I. J'ai pas rien d'autre à m'occuper de.
Ben, le premier ministre, il est pas mieux. Lui, c'est un menteur. Il joue avec les mots, mais il promet beaucoup. C'est juste des paroles. J'ai rien vu jusqu'à date dans toutes ces paroles depuis qu'il est rentré, qu'il a fait quelque chose. Alors, il y en a qui gagnent le pouvoir par des mensonges, des promesses, des lueurs, des lumières qui ont l'air scintillantes, mais il n'y a rien en arrière parce que tu es aveuglé par les paroles. Toute la Terre est comme ça, tout le monde, toute l'Europe, tout le monde veut dire, je vois rien en ce moment. Je vis la pire des choses de ma vie que j'ai. Avant, peut-être, on n'avait pas l'Internet, là, on le voit mieux, là.
N'entends pas. On t'a perdu un petit peu.
C'est le petit chien, là.
Ah, OK. Bon, ben, on va continuer. OK. Alors là, on parlait justement, l'âme fortunée est dûment guidée de l'intérieur comme de l'extérieur. Son futur s'annonce des plus prometteurs. On est à la ligne 36, page 13.
Moi, je n'allais pas.
OK. OK, je vais baisser. OK, là, c'est, tu vois, c'est ici, là. Là, là.
OK. Oui, OK.
Alors, une âme fortunée n'est jamais laissée à elle-même dans la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas comme la vie matérielle où chacun n'est que laissé à lui-même, livré aux conséquences interminables de ses actes coup après coup, condamné à l'engrenage des actions et réactions à travers le cycle des morts et renaissances. Un triste sort pour toute âme inconsciente du seul et unique but ultime de la vie, atteignable par amour seulement, nonobstant toute considération de karma avantageux ou de vicarma malencontreux. L'âme suprême est en arrière-plan, toujours aussi bienfaitrice envers toute âme sincèrement désireuse de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle. L'âme suprême l'aide à prendre les bonnes décisions en fonction du service de dévotion, parce qu'après tout, le service de dévotion est l'objet même de ses prières. Le Seigneur le sait et le guide en conséquence. La voie du progrès spirituel est fort heureuse à tous égards. Attends une seconde. Il y a du bruit ici, là. Ça me dérange. Un moment. On continue. Plus un dévot progresse grâce à la miséricorde de l'âme suprême, plus il apprécie, il perçoit la présence de l'âme suprême en tout, et ce tout s'étend à l'univers entier. Enfin, il commence à comprendre par révélation ce que les Shastras affirment sur l'âme suprême. Il apprécie grandement pareille révélation et son amour croît d'autant pour l'âme suprême. Il est fort encouragé dans sa démarche dévotionnelle. Que savons-nous vraiment? Voilà. À la ligne 7.
Oui.
Que savons-nous vraiment de l'âme suprême à moins que cette connaissance ne nous ait été transmise de la juste façon d'une autorité en la matière, c'est-à-dire un maître spirituel authentique. De plus, quand on ne sait pas grand-chose d'avance de par notre conditionnement matériel, les Écritures authentiques s'avèrent des références par excellence. Elles sont, à juste titre, des incarnations sonores de Dieu, non différentes de lui, lorsqu'elles sont écoutées de bonnes sources, avec pour résultat de chasser les ténèbres de l'ignorance. Est-ce que des questions ou commentaires?
Nous, qu'est-ce que Krishna fait? Dans le fond, c'est pour s'amuser. Toutes les planètes, tous les dramas, toutes les scènes, le drame, la comédie, tout ça, c'est juste un amusement pour Krishna, parce que dans le fond, on ne meurt jamais. Il est l'écrivain de ce rôle, il est le producteur, le directeur et l'acteur. Alors on vit des scénarios de sa volonté. On n'est pas séparé de Krishna, on est toujours avec Krishna, sans arrêt. C'est juste nous qu'on a la brume devant nos yeux, qu'on voit pas rien de la vérité. Ça, c'est encore par la volonté de Krishna qui nous met dans cet état-là pour qu'on joue le rôle en se prenant pour le costume. Puis là, quand quelqu'un veut dire est tanné d'être dans le théâtre, la seule façon de sortir de là, c'est de prendre conscience en tenant la réalité à travers le mantra, puis l'avoir dans sa tête, pour dire ok, j'arrête, ok, moi je veux sortir de ça, là, je suis tanné là de jouer là. Puis toi, c'est quelque chose comme ça un peu, non?
Oui, c'est un grand théâtre. Comme il y a cet auteur français de littérature classique française, Honoré de Balzac, il a écrit justement son œuvre, ses livres, c'est intitulé La comédie humaine. Que il y a beaucoup de si on peut dire de transcendantalistes qui n'ont pas nécessairement étaient des dévots de Krishna comme tels, nommés dévots de Krishna, mais qui avaient une certaine conscience que c'est une pièce de théâtre, là. La vie humaine. Bon, comme on a dit au tout début, là, le chemin de la réalisation spirituelle est très long. Alors, ça dépend, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans la proportion où on s'abandonne à moi, moi je récompense en conséquence. Alors, si on veut s'abandonner à Krishna 1%, ben Krishna il réciproque à 1%. Et le reste, 99%, là, ça demeure ténébreux. Et il y a des gens que c'est, pour eux autres, c'est correct comme ça. Pour vous qui en avez 1%, puis on n'est pas là pour juger non plus, parce que la conscience de Krishna, il faut que ça vienne du cœur. Si quelqu'un est pas là, il est dans d'autres choses, ben Krishna il le sait ça, puis Krishna a son plan pour tout n'importe qui, là, qu'à un moment donné, ils vont finir par arriver. Et comme Krishna dit, après de nombreuses naissances et morts, celui qui me connaît et s'abandonne à moi. C'est le Bhagavad Gita, ça. Alors, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à reconnaître Krishna comme la cause de toutes les causes et s'abandonner à lui. Ça prend du temps, ça, à arriver à ça. Alors, mais si on a compris un petit peu, ben on va s'abandonner puis on va s'engager au service de Krishna. Et puis là, à ce moment-là, c'est comme on a dit aujourd'hui, qu'on dit que c'est quoi dans le fond le plaisir, c'est d'entendre tout le temps parler de Krishna. Parce que le cœur, c'est ça qu'il veut. On cherche le contact avec Krishna, entendre parler de Krishna, parler de Krishna, se souvenir de Krishna, faire des services pour Krishna. C'est Krishna qui est le centre. Et ça, c'est merveilleux. On cherche l'association des dévots qui sont dans une telle conscience et une affinité entre les dévots. Tu vois, par exemple, dans Tu vas en Inde et tu vas le sentir tout de suite. Il y a certains dévots qui te vouent une certaine préférence. Et dans le sens inverse aussi, ça va. Que certains dévots, tu les connais pas, mais juste à entendre ces dévots-là, il y a une affinité qui fait que, ah, tu as une préférence pour ce dévot-là. Tu as une certaine affection pour ce dévot-là. Et c'est juste naturel. Et ça a pas rapport non plus avec le sexe du dévot ou de la dévote en question. C'est juste l'attirance pour l'âme spirituelle, pour qu'est-ce qu'elle est. Quel genre de dévotion l'anime, cette âme-là. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de sexe là-dedans. C'est pas sexuel. Puis ça, ben
Mais l'âme
c'est...
n'a pas de sexe, l'âme. Si on prend un sexe, l'âme, c'est toutes les âmes, on est toutes féminines. On est toutes, il y a juste Krishna qui est l'homme, le mâle dans tout ça. Puis nous, on est toutes, je veux dire, des âmes féminines.
Ouais, c'est sûr, c'est dit ça. Krishna est Purusha, le mâle, et nous, on est Prakriti,
L'énergie.
féminin. Ouais.
Le prakriti, c'est l'énergie, non? C'est
Ouais,
ça?
l'énergie, ça peut être matériel, spirituel ou marginal. Le mot Prakriti. Plus souvent qu'autrement, ça désigne la nature matérielle, qui est une énergie de Krishna. La prakriti, mais il y a para-prakriti et apara-prakriti. Il y a la nature matérielle et la nature spirituelle.
Alors, si on est très matériel, on a plus d'épaisseur dans nos yeux de pas pouvoir voir la vérité. Et dans la même chose opposée, dépendant de notre évolution spirituelle, l'épaisseur matérielle disparaît puis on voit la vérité. Alors c'est l'attachement d'un côté ou de l'autre. Tu sais, soit qu'on est dans le centre, on a le choix. Hein? C'est-à-dire, on est comme dans le neutre. Puis là, on dit, est-ce que tu veux servir la matière ou tu veux servir le divin dans la vérité?
C'est ça. Ah, c'est pourquoi c'est dit l'âme spirituelle est dite l'énergie marginale. C'est-à-dire, elle peut se ranger d'un bord ou se ranger de l'autre bord. Elle est marginale. Soit un, soit l'autre. C'est
Alors le
marginal.
centre, c'est comme un centre, t'es neutre dans le centre. Il n'y a pas de oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il n'y a pas de dualité. Dans le centre, là, c'est vraiment le contempleur. On est des contempleurs dans le centre. On contemple la volonté divine.
On contemple, mais à un moment donné, faut aligner son fusil d'épaule assez rapidement parce que la volonté divine nous demande de nous abandonner à lui. Alors, on ne peut pas juste contempler, on doit agir aussi. Alors, comme Prabhupada dit dans la Bhagavad Gita, c'est pas juste de comprendre qu'on est une âme spirituelle, mais c'est d'agir comme une âme spirituelle.
Mais les dévots qui voient comme les différents noms de dévots, là, le plus haut qui est, je me rappelle pas
Uttama
qui.
Adhikari.
Ouais. Alors lui, il voit un chien, un éléphant, un humain, ou n'importe quoi, égal. Alors il contemple. Je veux dire, il y a pas de jugement à personne. Quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, ou quelqu'un qui donne quelque chose, pour lui, c'est juste dans le, et juste dans la contemplation de la volonté divine. Il y a déjà son évolution.
Oui, mais il y a un petit peu plus que ça parce que le Vaishnav, le dévot de Krishna, mettons un pur dévot là, qui regarde qu'est-ce qui se passe, mais le pur dévot n'est pas sans sentiment.
C'est de la
Sinon,
compassion qu'il y a.
c'est ça, il y a de la compassion. Il n'est pas indifférent au malheur des autres. Et en fait, c'est dit ça par Prahlad Maharaj, il dit, ça c'est dans ses prières au Seigneur Nrisimhadev. À savoir, personnellement, j'ai pas de problème. Mais je me fais beaucoup de soucis pour ceux qui élaborent des plans pour être heureux dans le monde matériel. Parce qu'ils le voient, ça. ils le voient qu'en fait, ils vont se casser la figure dans le monde matériel. Et même s'ils réussissent, quel est le plus gros problème qu'ils ont à
Pour
surmonter?
mourir.
C'est ça. Alors, comme Krishna et Prabhupada expliquaient comme ça, la mort, au moment de la mort, Krishna enlève tout. Tout est enlevé. Alors, ton prestige, ta position élevée dans la société, ta gloire, ta renommée, tout est enlevé, tout est à recommencer pour un autre
Notre
chapitre.
conscience, elle bouge pas, par exemple. Notre conscience, notre état de compréhension divine, elle, on l'emmène avec nous. Elle est éternelle, non?
Oui, ce que Prabhupada dit aussi, l'avancement spirituel qu'on a fait dans cette vie, on l'amène avec soi dans la prochaine vie. Parce qu'il y a une progression en permanence, si on peut dire, d'une vie à une autre. Alors, comme par exemple, on a les histoires de Bilva Mangala Thakur. Dans sa vie précédente, il avait atteint l'étape de Bhava. Dans sa vie suivante, Bhava, ça veut dire l'extase dans le service de dévotion. C'est pas Prema, parce que la prochaine étape, c'est Prema, le pur amour de Krishna. Mais Bhava, c'est juste l'étape d'avant. C'est très similaire, mais c'est pas encore Prema. Alors, lui, il avait atteint ça. Alors, on connaît l'histoire, là, avec son aventure avec Chintamani. Puis Chintamani lui dit, si tu avais autant d'attraction pour Krishna que pour mon corps, combien ta vie serait merveilleuse. Lui a cliqué là-dessus. Sa conscience de vie précédente s'est rallumée à ce moment-là. Il a tout quitté. Et puis, il est allé à Vrindavan. Et finalement, encore une faiblesse, une autre femme, et il s'est crevé les yeux pour ne plus avoir succombé à la tentation. Et puis, il dépendait complètement de Krishna. Et Krishna, tous les jours, venait en personne amener du lait ou la nourriture dans un pot pour Bilva Mangala Thakur.
Mais arriver à cette conscience, c'est pas tout le monde. Quelqu'un qui a la force, parce qu'il comprend que ses yeux l'empêchent, je veux dire, d'aller dans la direction qu'il doit, hein, se crever les yeux. Moi, j'arriverai jamais à me crever les yeux. C'est wow. C'est quelque chose, ça.
Oui, c'est quelque chose, comme Prabhupada dit, on peut pas imiter. On peut pas imiter. On peut suivre des instructions, mais on peut pas imiter. Ça, c'est lui qui a fait ça, c'est parce que t'es déjà comme pratiquement un pur dévot déjà d'avance, là. Et lui, en fait, c'est un exemple qu'il donne à tous les autres qui viennent par la suite. T'sais? Alors, lui, il a jugé bon de faire comme il l'a fait. Et puis, il est passé à l'histoire. Bilva Mangala Thakur, il y a un livre qu'il a écrit aussi. Je me souviens pas du nom, là. Mais il a écrit un ou deux livres. Bilva Mangala Thakur. Si on lit les livres de Prabhupada, on va pouvoir, si on fait une recherche dans Vedabase, Bilva Mangala Thakur, on va arriver sur qu'est-ce qu'il a écrit comme livre, comme ça. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Dans la vie, veut dire des fois, mais pas des fois, veut dire moi, je sens comme j'ai pas le goût de quelque chose matériel, mais je vois que je patine dans l'évolution spirituelle que sais, j'ai pas envie de rien, mais je suis pas un bon dévot. Ça veut dire je garde les autres dévots là, puis je suis loin d'être dans cette direction, cette conscience, tu sais, je vois les dévots, ils vont au temple, tout ça, puis ils sont entourés. C'est pas facile de moi, le matériel, c'est j'ai plus mais des femmes ou n'importe quoi là, ça me dit plus rien là, veut dire j'ai plus de goût pour ça. Je veux servir Krishna, mais pas facile. Pas facile. C'est vraiment, comme ils disent, pour t'aimer, j'ai ramé, je rame, mais je vois pas l'autre côté de la rive encore, tu sais.
Mais en disons on peut dire le ramage, si on peut dire ça comme ça, là. Pas ça qu'il faut dire, mais en tout cas, on se comprend, là.
Oui.
Alors, c'est chanter Hare Krishna. Et graduellement, le Saint-Nom nous révèle qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme réalisation. Tu sais, au pire, aller, là. T'sais, c'est comme j'écoutais Prabhupada, j'écoutais ça hier. Prabhupada qui dit dans une classe, t'sais, il encourage les dévots là, à qui il prêche là, à suivre les principes. Puis là, il dit, si vous ne pouvez pas, parce que justement, vous avez des mauvaises habitudes très ancrées. Si vous ne pouvez pas, dit chanter Hare Krishna. Alors, Prabhupada, c'est une façon de dire, faites-vous-en pas trop, là. Oui, on sait que c'est difficile, mais si vous chantez, ça va finir par dégager. Ça va finir par changer la perspective. Sinon, Prabhupada, s'il n'y a pas conscience ou confiance, tu sais, la confiance, il n'y a aucun doute, là, que justement le chant du Mahamantra va faire la différence. Puis ça purifie le mental. C'est ça le mantra. Mantra, c'est composé de deux mots. Mana, le mental, et trayate, qui veut dire purifier ou... Alors, mantra, purifier le mental. Disons, des choses... incongruite, qu'on dit en français, c'est le bon mot, là. Les choses qui sont pas de bon augure. Les contaminations qui peuvent être dans le mental. Alors, le mantra purifie le mental de ça. Ça nettoie le mental de ces choses-là. Et ça, c'est bienvenu. Et quand on chante, même sans apercevoir, on change. Par la suite, nos goûts, nos habitudes, notre style de vie va changer. Et si le dévot est moindrement, comment on peut dire, attaché, donc pas attaché, mais je veux dire lié à certains attachements, par la grâce du Saint-Nom, par la grâce de Krishna dans le cœur, Krishna va révéler au dévot, regarde telle, telle, telle chose, ça n'a pas d'allure, ou il faut s'en débarrasser, ou il faut se purifier de. Le dévot va comprendre, et c'est une question de temps avant que le dévot va s'abandonner complètement à cette volonté qui lui dit de se rectifier, se purifier, abandonner telle mauvaise habitude, etc., etc. Et puis, devons-nous comprendre. Et par la grâce de Krishna, Krishna est très patient avec le dévot. Krishna, il va pas pointer du doigt au dévot. Il va pointer du doigt à sa façon pour indiquer X, Y, Z. Mais il va pas, comment on peut dire? Ça va pas devenir un jeu qui est fatigant pour le dévot. C'est pas tannant pour le dévot. Oui, ça peut être senti comme malcommode. Ça dépend des dévots, là, comment ils perçoivent, mais c'est pas comme se mettre sur le cas de quelqu'un, puis ça devient comme absolu, là. Soit tu règles ça, puis après, sinon, c'est l'enfer. Ça marche pas comme ça avec Krishna. Krishna, il fonctionne, lui, avec, il te fait comprendre le gros bon sens, puis c'est à toi de reconnaître ce gros bon sens-là, et puis de prendre tes décisions en fonction de, et puis tout le monde est content. Si Krishna voit qu'il y a un changement dans le cœur du dévot, pour le mieux. Ben, Krishna est content, puis Krishna donne l'intelligence pour justement que ça arrive. Puis, le dévot, quand il voit qu'il y a des choses à perfectionner dans son service ou dans sa mentalité, ben, il est pas déçu. Il est pas surpris non plus. Tu sais, ces gens, mettons, ah, comment ça se fait que ça m'arrive? Moi qui pensais que j'étais patati patata, mais justement, la vie spirituelle, c'est comme ça. C'est que tout ce qui est, disons, concept illusoire de notre part est sujet à partir par la grâce de Krishna par un arrangement ou un autre. Et comme on a dit aujourd'hui, là, voir les choses telles qu'elles sont. Ça demande l'intelligence pour ça. Mais cette intelligence-là, elle est donnée par l'âme suprême dans le cœur qui vient combler le dévot d'une intelligence spirituelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai mis un petit posting dans le Facebook, là. Mm. C'est marqué, tout le monde veut être heureux. Mais avant d'avoir le bonheur, il faut la paix. Puis il y a seulement Dieu qui donne la paix. Parce que c'est vrai, je veux dire, ici, je pourrais pas vivre si j'avais pas le mantra. Je suis en haut d'une montagne, il y a personne, beaucoup de la solitude totale. J'ai pas envie d'avoir d'accompagné à rien. Même le monde ici, là, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas d'amis. Zéro ami. C'est beaucoup de choses. Mais le mantra, c'est ça qui me donne cette confiance d'être bien tout seul. Quand j'ai un petit down je sais pas, de monde ou un down, là, quelque chose comme ça, là, je chante des tours, tu sais, c'est tout. Puis ça te remplit. Puis ça te donne l'intelligence. Le mantra donne l'intelligence aussi pour voir les choses, comme vous dites, là, clair et net, tout ce que ça en est. C'est puissant. C'est très, très puissant. J'essaie de parler de ça à du monde ici, là. Ça se fait. Mais le monde pose des questions, puis tout ça, ça avance, là. Mais je suis pas assez bon pour les faire devenir dévots, là. Mais au moins entendre, veux dire. J'essaie de convaincre. Pas convaincre, de parler à quelqu'un. Ah, il me dit, je fais le mantra, tel mantra. Puis là, j'explique les affaires. Il y a bien des pilules. Mais il y a une pilule pour cette maladie-là. Mais la même chose avec l'âge de Kali aujourd'hui. Il y a un mantra. Des autres sont bons, mais c'est pour avoir des bienfaits matériels. Si tu veux avoir tout, veux dire, le bien-être total, ça prend le Maha Mantra Hare Krishna. Mais Dieu aussi, je vois que, dépendant des gens, le Seigneur me donne la facilité dans la langue pour partager certains niveaux de conscience avec une personne. Puis je pense que si la personne n'est pas prête, ça sort pas de la bouche.
Ouais, tu as raison là-dessus. Krishna donne l'intelligence parce que des fois, par exemple, tu vas savoir d'avance, mettons, que tu vas rencontrer telle ou telle personne. Ou peut-être que tu as déjà rencontré telle ou telle personne, puis ça s'est passé de telle ou telle façon. Puis là, supposons que dans ta tête, tu dis, ben, ça va se répéter, ça va être encore la même chose, peut-être. Mais par l'arrangement de Krishna, Krishna il donne l'intelligence. Si on veut vraiment prêcher dans notre cœur, Krishna donne l'intelligence. OK, ça c'est prêt, ça c'est pas prêt. Ça, tu y donnes, ça, tu y donnes pas. Krishna, il joue, il y a une certaine part que c'est Krishna qui donne l'intelligence pour dire les choses. Puis des fois, tu vas dire des choses, c'est sorti, mais c'était pas ça ton plan.
C'est ça, ça sort comme ça, là. Tu voulais dire quelque chose d'autre dans ta tête, mais la parole sortit différemment.
C'est ça, exactement.
Dépendant de l'individu, tu sens la vibration, puis après, tu te poses. Je voulais dire d'autres choses, je voulais parler d'autres choses. Ah, volonté de Krishna, c'est sa volonté. Peut-être que la personne n'est pas prête, ou peut-être moi, c'était pas vrai dans ma pureté de vouloir partager de la pureté. Peut-être j'étais avec peut-être ils vont entendre les mots que je dis, ça va être, j'aurai l'air intelligent, tout ça. C'était pas pur, ma parole. Alors, ça sort pas bien.
Mais ça, c'est relatif, dans le sens que peut-être que Krishna avait un plan que la personne entende telle ou telle parole. Et pour elle, ça, c'était bien pour elle. Pour nous, peut-être, on peut percevoir, mais ça, c'est pas vraiment ça que j'aurais voulu, mais c'est ça qui est sorti. C'est ça qui est sorti pour cette personne-là. Et puis, advienne que pourra. Je donnais un exemple dans ma vie personnelle, là. Une fois, à un Ratha Yatra à Montréal, Justin Trudeau n'avait pas été encore élu premier ministre du Canada. Mais il était, c'est son quartier, ça, le Parc Mont-Royal. Jeanne-Mance, c'est ça, Parc Jeanne-Mance.
Oui.
Alors, il était... les élections allaient avoir lieu, là. Puis finalement, il est rentré. Il est devenu le premier ministre peu de temps après. Mais quand il est venu, il était accompagné de Shamir. Tu te souviens, Shamir?
Oui, très bien.
Il était accompagné de Shamir, puis il y avait Justin Trudeau. Puis là, ben c'est Shamir qui l'a amené et qui me dit de lui parler. Mais là, dans ma tête, je me posais vraiment des questions. Qu'est-ce que je vais dire? J'essayais de trouver quelque chose. Parce que je veux pas non plus avoir l'air artificiel. Alors, là, je me dis, ben, moi, je vais y aller straight avec les mots de Prabhupada. Puis là, ben, j'avais lu quelque chose dans Bhagavad Gita, une teneur est portée. Puis je commence à y parler de ça. Et puis, il me fait la remarque. Il me dit, ça je m'en souviens encore, il me dit, quelqu'un qui a reçu beaucoup, il doit donner beaucoup. Et moi, je pense qu'il voulait dire, il a reçu beaucoup de son père, il est privilégié, parce que son père était déjà premier ministre, là. Puis tout ce que ça veut dire, né dans une famille pratiquement mais très aisée, aucun problème. Alors, s'il en a reçu beaucoup, c'est de donner beaucoup. Alors, Justin Trudeau est une personne, je pense, de nature pas mal libérale, pas juste politiquement, mais je veux dire libérale, disons généreuse, esprit large, etc., de nature. Alors, il est allé avec ça. Et c'est ça qu'il m'avait dit, ça je m'en souviens de ça, qu'il m'a répondu ça. Mais toujours est-il que moi j'ai envoyé un mot de Prabhupada. Hein. Je me souviens pas trop qu'est-ce que je lui avais dit, parce que je me suis plus rappelé qu'est-ce que lui m'a dit. Mais c'était direct de Prabhupada. Alors je me dis, ça c'est les paroles de Prabhupada. Si ça fait, ça fait. Et puis, tant mieux pour lui. Mais je peux pas me tromper. La seule chose, il y aurait une certaine part d'erreur de ma part. C'est si c'était vraiment pas approprié d'avoir été de cette façon de faire, mais j'en voyais pas d'autres.
Mais c'était dit pour lui comme ça.
Oui. C'était, j'en voyais pas d'autres. Parce que d'habitude, ces genres de situations-là, au Ratha Yatra, puis je prends toujours comme service questions et réponses, le kiosque questions et réponses. C'est relativement facile, en tout cas pour moi, là, de amener vos questions, je réponds du mieux. Encore là, c'est la même chose. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Parce que, tu sais, pour avoir 5 dévots, la même question, puis avoir 5 réponses différentes, ça dépend des dévots, ça. Mais j'ai toujours aimé faire ça, ce genre de service-là.
Oui, je me rappelle très bien, vous avez votre petite tente là, près de la rue Parc Avenue, là. C'était marqué question ou quelque chose comme ça là dessus,
Un
là, je me...
questions and answers en anglais, puis questions et réponses en français quand ils mettent la banderole en français, là, s'ils la mettent. Et puis, j'ai toujours aimé ça, faire ce service-là.
Le théâtre, c'est bientôt, ça.
Oui, c'est le 4 et 5 juillet cette année à
OK.
Montréal. Et à Toronto, c'est une semaine plus tard, c'est le 11 et le 12
Ça part
juillet.
toujours de Milton jusqu'à le parc ou ça a changé un peu la route?
Je pense pas que ça ait changé. Ça fait un bout de temps que j'ai pas été là. Mais ça, je pense que ça change pas. Tu sais, c'est un horaire pour la ville de Montréal, là, pour les polices. C'est facile à gérer, ça. Fait que les dévots n'ont pas besoin de demander plus que le trajet habituel. Puis tout le monde est content, là. Ils savent à quoi s'attendre, puis les dévots aussi. Puis on monte sur la rue Saint-Laurent jusqu'à Mont-Royal. Et puis c'est parfait.
L'année dernière, est-ce qu'il y avait autant de monde que les années avant? Ou plus?
L'année dernière, ils n'ont pas pu le faire à Mont-Royal. Ils l'ont fait à Ville-la-Salle. Et
Ah
j'ai,
oui.
oui, parce que il y avait des travaux dans la rue Jeanne-Mance, en tout cas même la rue Mont-Royal, je pense, des travaux, c'était pas possible de passer par là. Fait que la ville a donné un autre trajet à Ville-la-Salle, que j'ai trouvé très long comme trajet. C'est correct, les dévots ne demandent pas mieux, là. Plus la parade est longue, mieux c'est pour eux autres, là. Mais c'était bien. Et malheureusement, il pleuvait un peu cette journée-là, en tout cas pour le samedi. Moi, j'ai pas été le dimanche. Alors,
Il pleut pas mal souvent, la traître, je me rappelle, parce souvent, souvent, quand ça arrivait une journée de pluie. C'était pas mal toujours, garanti, presque.
ouais, c'est comme genre une journée sur deux, une la pluie puis une pas de pluie.
Ouais.
Souvent ça arrive comme ça là. Alors, mais les dévots, ils font la parade pareil, même s'il pleut.
Ben.
Les gens doivent trouver ça vraiment spécial. Tu sais, moi je me souviens quand j'étais nouveau dévot à Montréal. On chantait sur la rue Sainte-Catherine, peu importe les conditions de température. Fait que des fois, il neige, des fois, il pleut. Et on marchait pareil. On faisait le Sankirtan. Et puis, je suis sûr, les gens se disaient, hey, il faut être vraiment déterminé pour y aller, même s'il pleut. Chanter Hare Krishna. Moi, je me souviens, disons, j'avais une amie, une copine au cégep. Puis, j'avais dit à cette copine-là, j'avais dit, est-ce que tu serais capable de faire ça, toi? Puis elle dit, non, elle dit, moi, je serais pas capable. Elle dit, je les admire, mais jamais je serais capable de faire ça. Puis moi, j'ai répondu, j'ai dit, moi, je pense que je serais capable.
OK, vous n'êtes pas encore là.
J'étais pas dévot encore.
OK.
Mais j'étais dans... Ça, c'était à peu près un mois avant que je rentre au temple comme dévot, là. Mais ça fait partie de la période de transition, là. Tu sais, tu vois les dévots. Et puis... Tout ça a commencé parce qu'il y avait un garçon qui, un ami de cette copine-là, dans le cours, un jour, il avait été au temple de Christ, le temple à Park Avenue, puis il avait dit, devant toute la classe, avant que le cours commence, tu sais, un petit 5 minutes, 10 minutes, les étudiants arrivent, puis tu peux parler un petit peu, puis tout ça. Puis il avait dit, hey, hier soir, je suis allé voir les Krishna. Puis, ils servaient des petits cubes de viande. pour lui, dans sa tête, c'est, ouais, pour, dans sa tête, pour lui, c'était des cubes de viande, mais c'est impossible, là. Les dévots servent pas de cubes de viande. Mais pour lui, il pense qu'il a mangé des petits cubes de viande. Alors, il dit, il servait des petits cubes de viande, là, puis il dit, c'était tellement bon, là. Quand lui, il en revenait pas combien c'était bon. Mais la façon qu'il l'a dit, moi, ça m'a accroché, moi. Moi, je me suis dit, hey, il faut que je check ça au moins une fois dans ma vie. Il faut que j'aille voir ça. J'aille goûter à ça. Puis un de ces bonsoirs après le cégep, là. Le cégep, c'était walking distance. J'allais au cégep du Vieux-Montréal, là. Si tu montes la rue pis t'es rendu au parc, Temple Park Avenue, là.
Oui, c'est vrai.
Cinq,
Oui,
dix
oui.
minutes, pas plus, à pied, là.
Et Ontario, c'est la rue Ontario, le sujet qui était, non?
Non, 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 non. Le cégep, sur la rue Sherbrooke.
Saint-Denis?
Saint-Denis-Sherbrooke, dans ce coin-là.
Ah, OK, oui.
Le Mont-Saint-Louis, ça s'appelait avant. Cégep du Vieux-Montréal. Alors, tu montes l'avenue du Parc, puis
C'est là.
t'arrives sur le Temple, au Temple Avenue du Parc, 3720 Parc Avenue. Et puis, un de ces bonsoirs, je me suis dit, hey, je rentre pas à la maison, je vais aller au Temple. J'ai dépassé le Temple. J'étais pas du bon côté de la rue. Et puis, là, j'ai traversé le parc Jeanne-Mance, rendu à Mont-Royal. Puis là, je regarde les numéros de maison, c'est dans les 4500 ou quelque chose de même. Puis j'avais l'adresse, c'est 3720 Parc Avenue.
Et loin.
Alors, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens, je suis trop loin, il faut que je revienne. Où est-ce qu'il sait? Je ne sais pas. J'ai jamais été. Alors, je reviens le côté en face du temple. Puis là, quand j'arrive, je savais, le dévot me dit Avenue des Pins, Parc Avenue. Je me suis dit, oh, c'est où ça, Avenue des Pins? Puis il me dit que c'est sur le coin. Alors, je sais, je suis arrivé à Avenue des Pins. Où est-ce qu'il y a le temple?
Et
Puis
c'est tout du bois qu'il y a là-bas, il n'y a rien.
Alors, d'un coup, je me dis, faut que je regarde. Puis je regarde en haut de la bâtisse, puis là, à travers toutes les fenêtres, c'était marqué Sri Sri Radha Krishna Temple of Montreal. En anglais, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça passerait pas, là. Mais là, puis là, je vois un dévot qui est dans la douche avec sa tête rasée puis les couettes en arrière. Puis là, je me suis dit, ben c'est là. C'est là que c'est. Puis là, ben, je traverse la rue, puis là, je vois une tête de dévot que je connaissais pas, mais ça, c'est Prabhupada. Juste la tête de Prabhupada. Un beau sourire de Prabhupada, là. Puis quand j'ai vu cette photo-là de Prabhupada, mon feeling intérieur, c'était, ouais, ces gars-là ont la vérité. Ça a été ma réaction spontanée. C'est ça que j'ai pensé. Fait que là, je suis monté, j'arrive au temple à 7 h pile. Puis à 7 h, c'est l'artie. Fait que là, je vois un dévot qui court comme un bon pour rentrer dans la salle du temple. Puis là, il ressort aussi vite qu'il est rentré parce qu'il a vu qu'il y avait un invité qui était dans l'entrée de la porte. Puis ça, c'était moi, ça. Fait que là, il me dit, on va avoir une cérémonie. Est-ce que vous voulez venir? Ben, je dis, oui, je vais venir, moi. Moi, je venais pour le prachad, là. Je venais pas pour la cérémonie, tu sais. Alors, moi, pourvu que le prachad arrive, c'est juste ça qui m'intéresse, là. Fait qu'on va au temple, la cérémonie de l'artiste, là, je comprenais rien, mais on peut dire,
Pas grave.
comme les Français disent, je trouvais ça sympa. C'était correct, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ils servent les flammes, tu sais, les flammes, les guilhem, tout ça. Là, ben, je vois tout le monde met sa main par-dessus. Je fais pareil. Mets mes deux mains, puis il me fait ça comme ça. Puis je suis la parade, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui arrive, ça arrive. Puis là, après, finalement, ça a terminé. Puis là, le dévot me dit, ben là, on va manger. C'est le repas du soir. Est-ce que tu veux rester? C'est en plein ça que je voulais, tu sais.
Avec plaisir.
Avec plaisir, oui. Fait que là, je suis venu, ils m'ont servi du prachad. Et puis, me souviens assez bien qu'est-ce qu'ils ont servi. Il y avait des patates pilées avec du curcuma dedans. Et il y avait des Simply Wonderful. Il y avait du halava. Et du popcorn. Ça, c'était le repas. Et j'ai trouvé tout bon. Et en particulier, les Simply Wonderful, là. Oh boy. Il y en avait juste un, mais ça m'a conquis, là, sur le champ, là, right on the spot. Ça, là, je me suis dit, c'était Vishwambar qui s'occupait de moi. Puis je dis, est-ce que je pourrais en avoir un autre? Puis il me dit, non, on les garde pour les invités. J'avais eu un, parce que j'étais un invité, là. Fait que je me suis dit, va falloir que je revienne parce que j'en veux un autre de ça. C'est tellement bon. Puis je suis revenu. Puis à l'époque, j'avais cinq jours. J'avais des cours au cégep. Puis il y avait une journée, par exemple, j'avais juste un cours. Là, je me suis dit, ça, je skip ça. Oh, oublie ça, ce cours-là. Je vais aller au temple à la place. Alors, j'oubliais ça. J'allais au temple, même dans l'avant-midi. J'allais au temple parce que j'étais supposé d'aller au cégep. Mais moi, je voulais aller au temple. Là, les dévots, à un moment donné, me demandent, ils disent, si je veux aller chanter avec eux autres sur la rue Sainte-Catherine. Je me dis, oui, je vais essayer ça. J'allais chanter avec les dévots. Puis là, ma copine qui venait au cégep, elle passe devant moi. Elle passe devant le groupe de dévots, là, on chantait. Puis, elle m'a demandé si j'étais heureux de faire ça. Et j'ai dit oui. Et je pense que c'était la dernière fois que je l'ai vue, cette copine-là.
T'es trop bizarre pour moi. T'es trop bizarre.
Ouais. Ouais. Puis après, ben, c'était assez rapide, merci. Je chantais mes tours et puis devenu un dévot. Bang, bang. En l'espace d'un mois, là.
C'était fait.
C'était fait. J'ai donné ma vie à un nombre
d'années. Quel âge vous aviez à ce moment-là?
J'avais 19 ans.
Ben là, je peux commencer. Vous n'êtes pas encore trop de souillure de la société, là.
Oui, je venais d'avoir 19 ans, en fait. Venait d'avoir. Alors, c'était correct, là. Je savais pas quoi faire dans la vie. Je me posais des questions, mais il y avait rien qui cliquait vraiment. Mais avec les dévots, là, c'était correct. Ça a cliqué, et puis j'ai trouvé ça difficile, par exemple, être avec les dévots dans les débuts, là. J'ai été pendant 5 mois à me poser la question, je reste pas. Puis là, à un moment donné, je trouvais ça difficile d'un point de vue physique. C'était pas la philosophie qui était le problème, c'était physique, c'est genre...
Le réveil de bonheur.
Ouais, c'est t'adapter au style de vie, là. Tu te lèves de bonne heure, tes heures sont coupées de sommeil. Et puis, les repas aussi, t'as beau avoir faim, mais tu vas pas manger parce que le repas est pas servi encore. Tu sais, genre machin comme ça, là. Je trouvais ça difficile, mais au bout de 5 mois, je me suis dit, si les dévots sont capables de le faire, ça veut dire que moi aussi, je devrais être capable de le faire. Puis là, ça a arrêté, là. Là, c'est genre... Je me posais plus la question, je reste pas. C'était genre, je vais rester. Puis j'ai continué that was it. Et puis je ne regrette pas. Là, après, au bout de 6 mois, tu vois, comme je te dis, 5 mois. Là, au bout de 6 mois, c'est-à-dire un mois plus tard, le président du temple m'a demandé si je voulais aller aider les dévots à Paris.
Et vite puis, quand même, hein?
Ouais. Prendre un petit jeune nouveau là, de 6 mois dans le temple, là. Il fallait le faire, là. T'sais, aujourd'hui, il ferait jamais ça, là. Aujourd'hui, il ne ferait pas ça, là. Mais en tout cas, peut-être que oui, mais who cares, who knows? Mais ça, toujours est-il que il me l'a demandé. Et moi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai pas dit je vais y réfléchir ou rien. Là. Moi, j'ai dit whatever. Ça, j'ai répondu. J'ai dit whatever Krishna wants, it's okay. Je vais le faire.
C'était le début des années 70 ou la fin des années 60?
Ça, c'était en 70, ça. C'était en 71 quand ils m'ont demandé, parce que j'ai joint en novembre 70. Alors, on était, toi, 6 mois plus tard, on était rendu en 71, là. Et puis, j'ai dit oui. Fait que là, ils m'ont arrangé. Tout était payé, là. Il n'y avait pas un sou de ma part, là. Que mon billet d'avion était payé pour aller à New York. Et de New York, j'allais aller avec un autre dévot pour l'Europe. C'était supposé d'être à Paris, mais finalement, ça n'a pas tourné pour Paris. Ça a été pour la première fois, parce que c'est fait en 2 fois. Une fois à Londres, Londres nous a retourné à New York. Puis après, un autre mois plus tard, de New York, là, cette fois-ci, à Amsterdam. Et à Amsterdam, au lieu que j'aille à Paris, c'était ça le deal, là. Finalement, ce dévot-là, lui, il était à Hambourg, en Allemagne, puis il me dit, pourquoi tu viens pas à Hambourg, à la place? Pour travailler, pour faire un Back to Godhead en français, parce que la presse pour la France était à Hambourg, en Allemagne. J'ai dit oui. Donc là, m'a donné un Back to Godhead à faire en français. Parce que j'avais déjà tapé, moi j'avais appris à taper par moi-même avant d'être dévot. Et puis après ce service-là, ils m'ont pas donné d'autres services pour la France. Je suis devenu un dévot ordinaire parmi les dévots allemands. Et on faisait du Harinam tous les jours, on a distribué des Back to Godhead. Ah bon, c'était difficile. Les gens, les Allemands étaient vraiment pas
Je sais,
fans.
j'ai habité 3 ans là-bas à Düsseldorf, Wuppertal, Cologne. J'ai fait 3 ans en Allemagne. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Pas d'amis, pas partout. C'était le monde le plus froid. C'était dur, 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 dur.
C'est ça, c'est ce que j'ai constaté. Ces gens-là sont très, très très froid. À un moment donné, on chantait, là, on était 20 dévots, un à côté de l'autre, épaule à épaule, là. Puis on chantait, il y avait des travaux publics, puis ils avaient mis des grands madriers de bois parce que le trottoir était complètement creusé en dessous. Puis nous, on chantait sur cette plateforme-là, là. Fait que les gens avaient pas le choix que de passer là. Ils ne pouvaient pas nous éviter. Ben, il n'y a pas un chat qui nous regardait. Pas un chat qui souriait, qui faisait des commentaires. On aurait pu ne pas être là, ça aurait fait aucune différence. C'était vraiment spécial. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'aller ailleurs en Allemagne. Ils m'ont demandé à Berlin en premier, Munich après. Puis à Munich, le climat était trop trop humide pour moi, ça me rendait malade. Alors j'ai quitté pour la France. Puis là, je suis resté en France pendant 7-8 ans à peu près. Puis c'était
quand
correct.
même un bon
Ouais.
moment, ça.
Ouais. La France, c'était vraiment bien. Là, je trouvais là, et la France, c'est le paradis à côté de l'Allemagne.
Aïe, 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 c'est pas, moi, j'ai passé aussi plusieurs, je sortais avec quelqu'un dans ce temps-là, que son frère était vigneron à Pommard, en bas de Lyon. Je passais toutes les années, j'allais pour 5-6 mois là-bas. Montpellier, où il y a les étudiants, je montais en haut. C'était bien, j'ai bien aimé la France.
Ouais.
J'aime mieux le bas de la France que le Paris. Paris, c'était trop fort pour moi.
Ouais, il y a une grande différence au niveau climatique entre ce qui s'appelle le sud de la France, le Midi, là, et puis Paris, en haut de Paris, c'est souvent gris. Il n'y a pas d'hiver vraiment là-bas, là. Tu sais, il n'y a pas de neige comme ici, là. Très, très rare, c'est un flocon ou deux, là, qui tombe, là. Mais dans le sud de la France, c'est clément, c'est la Méditerranée là-bas.
Ah, c'est très joli, puis le monde aussi, la personnalité du monde sont totalement différentes du sud au nord. Ça commence à Saint-Michel, là, je sais pas si ça s'appelle Saint-Michel, là, Mont-Saint-Michel, parce qu'il y a l'église, là, il y a comme un
Oui,
gros...
ouais, c'est un lieu de pèlerinage là-bas, mais il faut traverser il y a un bras là à traverser là quand même, parce que c'est dans la mer, ça. Alors il y a comme un pont. En tout cas, avec les marées, là, à un moment tu peux y aller, puis à un moment je pense que tu peux plus y aller, là, quelque chose comme ça.
Je me rappelle pas, mais je sais que j'ai visité les passages il y avait des passages à travers toutes les maisons, toutes les cours, là, pendant la guerre, là, que le monde utilisait. Mais à partir de là jusqu'en bas, moi, j'ai trouvé ça bien, mais dans le nord, c'est différent.
Oui, dans le nord, c'est différent. C'est plus. Ben, Paris, disons, les gens à Paris, ils sont bien, là, mais je veux dire, c'est une grande ville. Alors, les gens sont plus impersonnels. C'est comme n'importe quelle grande ville, là. Tu vois, à New York, les gens sont. Tu vois, à Londres, c'est la même affaire. Les gens sont plus impersonnels. En Allemagne, c'est la même affaire. Mais dès l'instant que c'est moins grande ville, t'sais, un peu de campagne, là, les gens sont plus sympathiques, sont plus ouverts, sont plus humains, si on peut dire.
Bon, les deux pays que j'ai pas aimés en Europe, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre, c'est moi j'ai trouvé le mot, je connais pas d'autres mots, hypocrite un peu. C'était pas mal tout j'ai rencontré peut-être le mauvais monde là, mais c'était là les riches, les pauvres. Il y avait deux catégories de monde. Tu veux dire, ils se mélangeaient pas. The Lords et le monde normal.
Ouais.
Je peux vous demander quel signe vous êtes astrologique?
Balance.
Ah, parfait. C'est pour ça que je m'entends bien avec vous, là. Je veux dire, j'échange bien avec vous. Moi, je suis Sagittaire, un signe d'air et de feu, c'est une bonne communication, là.
OK, on est dans l'air.
Ben, moi, je suis le feu, puis l'air aide le feu, puis le feu avec l'air, ça fait l'expansion, tu sais, quelque chose comme ça, dans l'astrologie, là. Supposé.
C'est ça. Alors, c'est ça qui est ça, je pense, pour aujourd'hui, là. À moins que tu aies d'autres questions, commentaires.
Non, quand même, je vois, c'est dur parce que on se voit pas, là, parce que là, c'est nous, la nuit ici, là, à 6h15, paf!
Ouais, ici c'est la nuit aussi à cette heure-là peut-être, ou en tout cas ça va être bientôt là. Alors c'est ça.
Et là, chez vous, c'est là, 6h30, ça veut dire
Là ici,
8h30, là.
ouais, 8h39 exactement. 9h
C'est
moins 20, c'est en tout ça.
2 heures de différence avec le Montréal, ici.
Vous avez 2 heures de différence?
Oui, l'été, j'ai 2 heures, l'hiver, c'est 1 heure.
Ah, OK. Fait que là, on est 2 heures. Chez vous, il est quelle heure, là?
6h30, là, 6h et quelques, là,
Ah,
6 heures.
OK. OK, ça veut dire que nous autres, on est plus tard que chez vous, alors.
Oui, vous
OK.
êtes plus à l'est.
OK. Bon, ben, c'est ça qui est ça.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci à vous beaucoup, beaucoup. Puis on se voit
Pour le prochain cours,
mercredi prochain. Ça va être
c'est ça. Dans une semaine. Dans une
dans une
semaine.
semaine. Merci beaucoup, Prabhu.
Merci, ça me fait plaisir.
Un
Hare
plaisir.
Krishna.
Appelez Krishna. Allez, allez, bon.
Haribol. Shri
Allez, bon.
Prabhupada Ki Jai. Haribol.
Allez, allez, bon.
Jai. Haribol. Jai.